Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pascal Baudin.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée aux sanctions économiques. Dès le XIVe siècle, les villes de la Hanse allemande décrétèrent un embargo contre la cité de Bruges, qui était alors le plus important marché d'Europe du Nord. En 2 ans, la ville se trouva au bord de la famine et dut se soumettre aux exigences des Hanséates. Un succès qui pourrait peut-être inspirer aujourd'hui les États-Unis et l'Union européenne. Les puissances occidentales multiplient en effet les mesures de rétorsion économique à visée politique depuis une vingtaine d'années. Avec quelle efficacité? C'est la question que nous poserons demain à nos deux invités. Mercredi, nous verrons comment la justice américaine s'arroge le droit de sanctionner les entreprises étrangères. Jeudi, enfin, nous interrogerons le rôle du châtiment dans la société. Mais pour l'heure, nous sommes attendus sur le front anglais aux côtés de Napoléon. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir sur le blocus institué par Napoléon pour étouffer l'économie britannique en compagnie de Pierre Branda, historien, membre de la Fondation Napoléon et auteur du Prix de la Gloire « Napoléon et l'argent » paru chez Fayard il y a quelques années. En fin d'émission, c'est Amélie Perrault qui nous donnera toute cette semaine des nouvelles de l'écho. Bonjour Pierre Branda.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors notre émission s'ouvre le 2 décembre 1804, jour du sacre de Napoléon.
L'empereur, costume de velours pourpre brodé d'or et tenant le sceptre, descend du carrosse. À sa gauche, l'impératrice, étincelante de pierreries dans sa robe de satin blanc, souriante, elle paraît 25 ans. L'empereur et l'impératrice entrent dans la cathédrale. 100 000 personnes crient. Le pape descend de sa chaire et entonne le Veni Creator. L'empereur touche des deux mains le livre des évangiles que lui présente le grand aumônier. Et il répond, profitez-en. La main sur les évangiles, l'empereur parle. Tous s'agenouillent.
Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter les lois du Concordat, de maintenir l'institution de la Légion d'honneur et de gouverner dans le seul intérêt du bonheur du peuple français.
Voici l'onction sacrée. Le pape bénit les ornements impériaux et les remet à l'empereur. D'abord l'anneau qu'il passe à son doigt, et puis le manteau, la main de justice, et puis la couronne. Le pape la pose sur la tête de l'empereur. L'empereur maintenant reprend la couronne sur sa tête et la pose sur celle de l'impératrice.
Voilà un extrait du film d'Abel Gance, Austerlitz, sorti en 1960. Un premier mot, Pierre Branda, sur les circonstances de l'arrivée au pouvoir de Napoléon jusqu'à son sacre à Notre-Dame de Paris, ce 2 décembre 1804.
Oui, ce 2 décembre 1804, qui est 2, 3, voire même 4 ou 5 ans avant, aurait paru totalement surréaliste et inattendu aux contemporains. L'arrivée de Napoléon Bonaparte dans l'histoire est à la fois aussi inattendue que soudaine. Car il inverse le cours de l'histoire. Au moment de son apparition, la révolution se termine. D'ailleurs, une crise financière très importante est en train de faire douter tous ceux qui l'ont soutenu. Et très probablement que sans son apparition, on aurait assisté à une restauration avant l'heure. D'ailleurs, les élections de l'époque montraient une majorité royaliste, en fait. Et voilà qu'arrive dans les plaines d'Italie ce général qui remporte victoire sur victoire de manière étonnante. Étonnante, fulgurante, qui fait plier l'Autriche, alors que personne ne s'y attendait ou ne croyait cela possible. si je puis dire, l'impossible va continuer en Égypte, où il va encore stupéfier tout le monde par cette expédition, alors qu'il en partie raté, mais scientifiquement est très réussi, et qui, du point de vue de l'image, impressionne. Car là, à ce moment-là, d'ailleurs Stendhal le dira, on a vraiment l'impression qu'est apparu le successeur de César ou d'Alexandre. Mmh. Et à ce moment-là, évidemment, dans le jeu politique, où on sait que la révolution est finissante, qu'il faut trouver une issue, à ce moment-là, eh bien, on est persuadé que c'est à un général de terminer la révolution. Et il se trouve que ça va être lui, que de retour d'Égypte, alors que déjà des complots se préparaient, un coup d'État se préparait, eh bien, il s'y adjoint et finit par faire sien ce coup d'État et renverser le directoire pour établir le consulat. Ce consulat, ce régime qui, au départ, que ce soit d'ailleurs financièrement, militairement, etc., avait toutes les chances d'échouer. Et là encore, ce qu'on va appeler le miracle consulaire, sur tous les plans, que ce soit diplomatique, la guerre, la finance, civilement, eh bien, le pays se rétablit et même va bien au-delà. Et la France moderne est posée sur les fonts baptismaux, ce qui fait que nous avons comme ça pour les contemporains une stupéfaction, une admiration. Il y a encore des oppositions, mais
il est définitivement perçu comme l'homme providentiel. Et comment émerge dans ce contexte cette idée d'assécher l'économie anglaise par le biais de sanctions, à Pierre Branda?
Alors après, évidemment, donc il se fait sacré empereur pour conforter ce pouvoir. Néanmoins, la guerre s'est rallumé avec l'Angleterre depuis 1802, après une brève période de paix, parce que l'Angleterre comprend que la France est en train de devenir puissante, trop puissante, et que ce vieil ennemi séculaire est en train de comme ça remonter et peut contrarier ses intérêts dans les colonies et ailleurs. Du coup, elle finance les coalitions. Napoléon fait face à la Russie, l'Autriche, puis la Prusse, mais comprend que celui qui, derrière tout cela, finance et encourage les guerres continentales, c'est l'Angleterre, c'est l'or anglais.
Et c'est pour ça qu'il va y avoir des sanctions qui vont être prises dès 1798 contre l'économie britannique. Comment se porte à ce moment-là cette économie britannique, Pierre Branda, au tournant des 18e et 19e siècles?
Alors, l'économie britannique est active, évidemment, par les colonies. En plus, comme la maîtrise des mers, si je puis dire, elle ramasse les colonies des autres, ce qu'elle n'avait pas avant, depuis la guerre, Portugal, française, hollandaise, etc. Du coup, elle accroît sa surface coloniale, ce qui lui donne encore plus de poids. Et surtout, on l'oublie souvent, mais en économie, confrontée à néanmoins quand même une guerre d'importance, elle est quand même menacée de débarquement, de panique, etc. Il se trouve que Pitt, qui est alors le Premier ministre, décide de... que la livre sterling ne soit plus convertible en or, c'est-à-dire que grosso modo, pour faire simple, c'est la première monnaie qui va se décrocher de l'étalon or. Alors ça paraît technique, mais à l'époque il fallait absolument que ce que vous déteniez en papier puisse être converti en or. Alors là, ils suspendent ça, et quand on faisait ça à l'époque, c'était la faillite. Or, ça ne va pas être la faillite. Pour la première fois dans l'histoire économique mondiale, nous allons avoir une monnaie qui va s'affranchir de l'étalon or. Mmh. Alors évidemment, quand vous franchissez du métal, de l'étalon or, qui par nature, la quantité d'or est limitée, eh bien ça vous donne une surface financière assez beaucoup plus importante, ce qui est le cas de nos économies d'aujourd'hui. Et par là, l'Angleterre, non seulement rebondit, mais accentue son effort.
Et en même temps, sa dette s'était multipliée par 28 en un siècle, ce qui pouvait laisser entendre que l'économie britannique était plus fragile qu'on ne voulait bien le croire.
Alors oui, l'économie fragile est beaucoup plus fragile qu'on ne peut le penser, si je puis dire, de manière effectivement objective. Mais en fait, entre la confiance des individus et le fait que tout le monde croit encore en ce pays, je simplifie là encore, évidemment, il y a des oppositions, des pertes de confiance, mais on croit à ce pays, on croit à sa solidité, et si je puis dire, comme tout le monde a intérêt à ce que la livre sterling tienne, c'est un peu le « tu me tiens, je te tiens par la barbichette », excusez-moi de cette image un peu simpliste, mais c'est ça, c'est-à-dire que si on lâche la livre, eh bien, on perd ses économies, l'économie et du coup tout ça s'écroule. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour le dollar américain. Hein. Je veux dire, si on croit encore au dollar, c'est parce qu'on en possède et qu'on n'a pas intérêt à ce qui s'écroule. Donc pour la livre sterling de l'époque, il faut bien comprendre que c'est la même chose et que donc cette monnaie soutient l'économie anglaise et lui permet d'avoir l'arme la plus chère de l'époque, c'est-à-dire une marine. Parce que c'est pas parce que l'Angleterre est une île qu'elle a une flotte, c'est parce qu'elle a les moyens.
Justement, sur la marine, je voudrais vous faire entendre l'historienne Sylvia Marzagalli.
Du point de vue de la puissance, disons, de la géopolitique de l'Atlantique, effectivement, l'histoire du XVIIIe siècle, l'histoire d'une réduction du rôle français. En revanche, la France perd d'une façon progressive deux dates, là, sont des dates importantes, 1713, la fin de la guerre de succession d'Espagne, avec la perte de Terre-Neuve et de l'Acadie, et 1763, avec la perte du Canada et du tous les territoires français dans l'Amérique du Nord. Donc la France perd les colonies sur les territoires continentaux de l'Amérique, qui font finalement la force de l'Angleterre, la force d'un point de vue du territoire, certes, mais de la possibilité de diversifier la production dans des aires diverses. Et c'est cette complémentarité entre les 13 colonies qui demeurent anglaises jusqu'aux années 1770 et les colonies antillaises qui fait la force aussi de la Grande-Bretagne. Du point de vue géopolitique, évidemment, l'histoire du XVIIIe siècle est l'histoire de l'affirmation de la puissance anglaise qui contrôle à chaque conflit les routes qui traversent l'Atlantique et qui donc empêchent très largement la France de faire le commerce avec ses colonies.
Voilà l'historienne Sylvia Marzagalli dans Les Chemins de la Philosophie, le 30 novembre 2000. La France accuse alors un retard important sur les mers. Pierre Branda, c'est cela qu'elle cherche à compenser?
Oui, c'est ça qu'elle cherche à compenser. Et en fait, bon, le constat est fait que l'Angleterre a la maîtrise des mers et qu'on n'est pas sûr de récupérer cette maîtrise, enfin du moins à court terme. Donc Napoléon pense que eh bien, tout ce qui est... les colonies ou l'économie coloniale, les produits sont tirés de la, enfin, extraits pour être vendus sur un grand marché, le marché commun, enfin pas commun, mais le marché européen. Donc il pense qu'en fermant l'Europe aux produits manufacturés comme coloniaux britanniques, eh bien, il va assécher les finances de l'Angleterre. Et enfin, pour faire une petite pirouette, il pense comme ça une sorte de Brexit à l'envers. Et isoler comme ça l'Angleterre du continent, parce qu'on la privant de ressources. Bien sûr, si elle produit et qu'elle ne vend à personne, évidemment, ça ne sert à rien.
Et là, il y a une date importante, qui est la date du 21 novembre 1806. Napoléon proclame alors le décret qui met les îles britanniques en état de blocus, alors qu'il est à Berlin. Qu'est-ce que va changer véritablement ce décret, Pierre Branda?
Alors, c'est une date importante, effectivement, parce que là, c'est la première fois dans l'histoire mondiale où on va voir comme ça l'utilisation, si je puis dire, la mise en marche d'une économie... pour en faire une arme de guerre et pour ainsi faire plier l'adversaire sans avoir lui livré bataille. Alors évidemment qu'on ne commerçait plus avec l'Angleterre depuis un moment, deux pays en guerre ne commercent pas ensemble, mais à l'époque, comme il n'y a pas de marque identifiée, si vous voulez, une marchandise anglaise, eh bien il suffisait qu'elle soit transportée par un navire américain, qu'elle arrive en Allemagne et ensuite elle arrivait facilement en France. Donc en fait les pays commerçaient pas normalement, mais il y avait des voies de substitution. Là, la première étape, la première pierre de cela, c'est que Napoléon demande effectivement à ce que l'Europe se ferme aux produits anglais, se ferme à la finance britannique, et comme ça, de manière déjà apparente, et tout ce qui pouvait être réputé britannique soit saisi. Ça, c'est sa première pierre, si je puis dire, dans ce processus qui va ne faire que s'amplifier, parce que il ne suffit pas d'édicter cela pour que tout s'arrête, parce que tout ne va pas s'arrêter du jour au lendemain.
On va voir que ce processus, effectivement, va mettre du temps à se mettre en place, mais d'abord, écoutons l'historien Emmanuel de Varesquiel.
Ce que va tenter, mais c'est pas nouveau parce que ça a déjà été tenté par la République, ce que va tenter Napoléon, c'est d'asphyxier économiquement l'Angleterre en lui supprimant les débouchés à l'exportation des produits manufacturés anglais sur l'ensemble de l'Europe. Mais en fermant les ports du continent à la flotte anglaise, on va créer une espèce de fuite en avant et une construction du système napoléonien qui va être obligé, dans un certain sens, de s'étendre sur l'ensemble du continent européen.
Voilà l'historien Emmanuel de Varesquiel chez nos confrères de France Inter le 21 novembre 2012. Pierre Branda, finalement, les conquêtes militaires vont être conçues par la suite par Napoléon comme un moyen d'accroître les effets de la guerre économique sur l'ennemi?
Oui, tout à fait, parce que pour respecter ce blocus, évidemment que les pays concernés européens ne prennent pas ce blocus de gaieté de cœur. Ils savent très bien que ce blocus va handicaper leurs économies, les échanges sont à ce moment-là importants, on a besoin surtout des denrées coloniales, hein. Je rappelle le café, l'indigo, le sucre, le tabac, pour le coton, pour comme ça faire que le commerce puisse prospérer. Donc
et
tous les pays
renaclent. Et développer les industries.
Et développer les industries qui sont alors naissantes, on est à ce moment-là en plein naissance de la révolution industrielle, donc du coup tout ça, si c'est appliqué, eh bien ça peut contraire. Napoléon écrit mon commerce est peu de choses, donc lui il est prêt à sacrifier le commerce français pour éteindre la guerre, mais les autres pays non. Du coup il s'en rend compte, ce qui fait que ce qui était finalement un principe, c'est-à-dire on fait le blocus pour éteindre la guerre, et bien on va finir par faire la guerre pour appliquer le blocus, ce qui va inverser le processus. Les tensions en Europe qui étaient déjà nombreuses, hein, géopolitiques, politiques, etc., enfin j'en passe, diplomatiques, on va ajouter une tension économique à la chose, avec des pays alliés ou des pays qui sont des sortes de satellites de la France, où il a placé ses frères et ses sœurs, notamment là, par exemple la Hollande, hein, qui est quand même le point d'entrée des principales, avant les guerres de la Révolution et de l'Empire, des marchandises anglaises en Europe. Et donc là, c'est son frère Louis qui devient roi de Hollande. Proche à Louis de ne pas assez appliquer le blocus. Alors Louis qui est conscient que ça peut fragiliser l'économie hollandaise, effectivement, on traîne un peu des pieds, la dispute grandit, mmh, jusqu'à ce qu'on ait presque arrivé à un point où les deux frères allaient se déclarer la guerre, ce qui est quand même... et pour ce sujet-là, très précisément.
Pierre Branda, ce que je me demande face à ce blocus, c'est comment s'organise la riposte anglaise. On assiste à une escalade des interdits commerciaux à partir de cette date-là?
Ah oui, l'Angleterre, de son côté, on les ordres en conseil, comme c'est l'appelle ça, eh bien elle aussi prohibe, ou du moins, enfin, de manière un peu subtile, veut en fait que se réserver ce qui peut encore passer en Europe uniquement pour ses marchandises, en fait. Parce que c'est elle a un blocus, si vous voulez, à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elle empêche plutôt les autres de vendre en Europe pour vendre elle à n'importe quelle condition, mais continuer. Alors certes, officiellement, elle dit qu'elle veut bloquer toute l'Europe, mais en réalité, c'est faux. Quand le blocus va être édicté, on va installer des entrepôts à proximité des côtes européennes pour inonder de marchandises anglaises en contrebande les pays européens. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que tous les bateaux qui se rendent en Europe, sa marine les visite, les interdit si ça contredit ses intérêts. Et si vous voulez, elle s'en sert quand même encore, comme d'ailleurs la plupart des choses qu'elle va faire dans ce domaine-là. C'est assez hypocrite, il faut le dire, parce que en fait, elle veut à travers ça à nouveau promouvoir son commerce, comme elle va le faire quand elle va vouloir se défendre l'Espagne ou le Portugal. Il y a une grande arrière-pensée commerciale derrière tout ça, c'est-à-dire on va défendre ces pays, mais si on les défend, eh bien ils vont nous ouvrir leurs colonies, et puis nous on va en profiter. Et là c'est un peu la même chose.
Et c'est pour ça que le commerce va quasiment s'interrompre avec les pays dits neutres, et notamment avec
voilà.
Les États-Unis.
Ah oui, le gros problème ça va être avec les États-Unis des deux côtés d'ailleurs, parce que bon, déjà les Anglais vont un petit peu forcer la main aux Américains pour que, eh bien, s'ils cheminent quelque chose en Europe, ça soit plutôt anglais. Et de l'autre côté, du côté de Napoléon, quand effectivement un navire américain se présente dans un des ports européens avec du coton, du tabac, etc., on ne sait pas d'où il vient. Parce que forcément, à l'époque, il n'y a pas les marques ou même des filets de coton, etc., on ne sait pas d'où ça vient. On sait très bien que c'est anglais. Donc, en fait, il faut aussi interdire, et ça sera après les décrets de Milan, 1807 et puis 1808, il faut interdire l'Europe non seulement aux Anglais, mais à tous les neutres, dont les Américains. Ce qui fait que là, on s'isole carrément.
Et à la fin de l'année 1807, il y a la Russie, la Prusse et l'Autriche qui ont adhéré au blocus, le Danemark également. Pourquoi est-ce que ces pays se rallient à Napoléon, Pierre Brandat ?
Alors, ils se rallient à Napoléon parce que ça fait partie des contreparties obtenues sur les champs de bataille. En fait, ces pays-là ont perdu la guerre, enfin, perdu une guerre.
Et il y a la paix de Tilsit avec la Russie,
voilà,
cette année-là.
La paix de Tilsit, etc. Donc, en fait, Napoléon leur met un peu ce marché en main. Je vais être assez modéré avec vous, je vais respecter certaines choses, je veux m'entendre avec vous. Je veux partager l'Europe avec vous, mais voilà, aidez-moi contre l'Angleterre. Et mon principe, c'est ça. Mon ennemi, c'est l'Angleterre. Donc, d'ailleurs, quand il dira ça au tsar, le tsar répondra hypocritement : ah bien sire, je suis bien d'accord avec vous. Nous sommes deux. En fait, il ment. Son ennemi, c'est pas l'Angleterre, ça restera toujours la France. Et c'est pour ça que ce jeu hypocrite, Napoléon d'ailleurs se laissera prendre. Mais en fait, ils adhèrent sur le papier, en fait.
Et alors, quels sont les effets de ces différentes mesures sur l'économie française dans un premier temps, après la rupture du traité d'Amiens en 1803, l'économie française a plutôt tiré profit des sanctions commerciales.
Alors effectivement, parce que nous sommes dans une phase de redéveloppement économique où avec beaucoup d'autres mesures, stabilisation de la monnaie, le développement des canaux, des routes, l'économie française, la promulgation du code civil,
la Banque de France,
voilà, fondation de beaucoup de dispositions qui, des chambres de commerce, enfin bon, qui encouragent l'économie. Là, il y a effectivement une protection contre une avance concurrentielle anglaise qui fait que pendant un moment, ça permet comme ça, on va à ce clos de profiter de ça. Et donc, effectivement, l'économie reprend des couleurs.
L'industrie profite de ce protectionnisme gouvernemental.
Oui, l'industrie en profite.
Mon fils, les soies du Royaume d'Italie vont toutes en Angleterre. Puisqu'on ne fabrique pas les soies en Allemagne, il est donc tout simple que je veuille les détourner de cette route au profit de mes manufactures en France. Sans cela, mes fabriques de soie, qui sont une principale ressource du commerce de France, éprouveraient des pertes considérables. Mon principe est la France avant tout. Vous ne devez jamais perdre de vue que, si le commerce anglais triomphe sur mer, c'est que les Anglais y sont plus forts. Il est donc concevable, puisque la France est la plus forte sur terre, qu'elle y fasse aussi triompher son commerce, sans quoi tout est perdu. Ne serait-il mieux pas pour l'Italie de venir au secours de la France ? J'entends mieux que personne la politique de l'Italie. Il faut que l'Italie ne fasse pas de calculs séparés de la prospérité de la France. Elle doit confondre ses intérêts dans les siens. Il faut surtout qu'elle se garde bien de donner à la France un intérêt à la Réunion, car si la France y avait intérêt, qui pourrait l'empêcher ? Prenez donc pour devise « la France avant tout ». Je trouve singulier qu'on ait quelque répugnance à venir au secours des manufactures françaises dans une mesure qui a aussi pour but de faire tort aux Anglais.
Un extrait d'une lettre de Napoléon à son fils adoptif et vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais. Une lettre datée du 23 août 1810, lue ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous de l'Écho. Cela fait alors 4 ans que le blocus a été décrété, Pierre Brandat. Et le souci de Napoléon, c'est avant tout d'en faire respecter les dispositions, notamment en Italie.
Oui, d'en faire respecter les dispositions, notamment en Italie, et d'aller même au-delà de cela. C'est-à-dire que, avec le blocus continental, il instaure ce qu'on va appeler un système continental, c'est-à-dire un marché commun avant l'heure, mais avec des règles qui avantagent la France. Et, par exemple, pour l'Italie, qu'il s'agit de fermer au commerce britannique, il faut, quelque part, l'installer dans une dépendance économique avec la France absolument totale, c'est-à-dire qu'il faut en faire son fournisseur, donc, grosso modo, Napoléon vient d'évoquer les soieries, effectivement, du Piémont. Eh bien, les ressources premières de l'Italie, il faut à ce moment-là qu'elles soient réservées à la France pour son industrie, puisqu'on a des problèmes pour s'approvisionner. Et ensuite, puisqu'on a fermé l'Italie au commerce méditerranéen.
Il faut que l'Italie achète les produits français.
Voilà. Donc on en fait à la fois son fournisseur et son consommateur. Mais ce que Napoléon ne comprend pas, c'est que à ce moment-là, puisque l'échange est comme ça faussé et biaisé, eh bien, l'Italie n'a pas les moyens de se développer. On va se développer beaucoup plus mal, du coup, s'enrichir moins et être un plus piètre consommateur qu'avant. Ce qui fait que, eh bien, même si on produit ça, les débouchés, même pour nous, vont se fermer. Ce qui sera moins le cas en Allemagne où on va arriver à connaître une expansion d'eau à la mer, puisque Napoléon se réserve les marchés italiens, mais aussi allemands. Ce qui fait que, comme ça, les industriels français ont une surface surface augmentée, au lieu de s'adresser à 30 millions de consommateurs, eh bien c'est plutôt 80. Donc on a cette idée là et qui fonctionne en partie, mais qu'en partie seulement.
Le pari de Napoléon, c'est que les entreprises françaises parviennent à dominer le marché européen malgré les éventuelles pénuries de matières premières. Sauf que la compétition allemande est très forte. Pourquoi ? Notamment parce que les négociants allemands passent beaucoup par la contrebande ?
Oui, le port de Hambourg reste une passoire pour la contrebande. Parce que le problème, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni, a comme ça deux avantages concurrentiels importants. La première, c'est qu'elle détient quasiment le monopole des denrées coloniales. Alors, on a essayé de remplacer le café par la chicorée, mais enfin, c'est quand même pas le même goût. Si vous êtes devant votre tasse de café de chicorée, plutôt, vous faites un petit peu une mine triste, donc ça ne prend pas. Pour le sucre, Napoléon va faire développer le sucre de betterave. Avec quelques succès, mais enfin on démarre assez tardivement. Il va encourager, il va comme ça y avoir des premières substitutions, mais ça ne suffit pas.
Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas ?
Il ne suffit pas, car on ne décrète pas d'installer des champs de betteraves comme on veut de manière aussi importante, parce que la consommation du sucre en Europe est devenue absolument phénoménale.
Le temps du blocus n'est pas celui de l'agriculture.
Non, voilà, donc du coup, le fait est que même si on commence à avoir des premiers succès, ça reste plus cher, c'est plus long, et à terme, peut-être qu'on y serait arrivé, mais je veux dire, là, dans l'urgence, ça marche moins bien. Ce qui fait que... Et deuxième avantage concurrentiel des Anglais, pas le moindre, c'est qu'eux, étant entrés en révolution industrielle beaucoup plus tôt que nous, leur filage de coton, c'est l'exemple donné, se fait de manière industrielle, donc les prix ont été divisés par 10. Ce qui fait que, du coup, la prime à la contrebande est possible et que les filets de coton anglais, même chargés par le transport, même chargés par la contrebande, restent plus compétitifs que ceux encore faits sur les métiers manuels. Donc ce qui fait que, entre le monopole des denrées coloniales qu'on n'arrive pas vraiment à remplacer et qu'ils possèdent, plus tous les produits industriels qu'ils développent, et à ce moment-là, ils sont assez nombreux, leur avantage concurrentiel permet la contrebande, sans quoi il n'y aurait pas eu de contrebande.
Et alors justement, à cause du décret instituant le blocus, les Français ne peuvent plus acheter de machines aux Anglais, mais c'est aussi une occasion pour la France de développer ses propres machines.
Ah oui, tout à fait. Napoléon d'ailleurs encourage tout ce qui est l'innovation. C'est ce qui fait aussi sa caractéristique, c'est d'avoir voulu et d'avoir compris que un industriel est aussi important qu'un général sur le champ de bataille. Donc d'ailleurs, à l'un comme à l'autre, il remettra la Légion d'honneur. Donc voilà quelque chose qui est nouveau, une prise en considération du monde économique, j'ai dit tout à l'heure à travers les chambres de commerce, mais pas seulement, et l'intégration de cela. Mais la contrepartie, c'est qu'évidemment, Napoléon conçoit cela comme un instrument de sa politique et doit faire partie, d'où tout le sens du blocus et du reste, ce qui n'est pas faux pour un pays en guerre, évidemment. Sa conception est assez moderne, d'ailleurs, de vouloir comme ça que l'économie soit une nouvelle armée à son service, on pourrait dire.
Et ce qu'on constate, c'est que les exportations françaises vers les États allemands vont tout de même augmenter. Donc en cela, c'est une réussite de cette politique menée par Napoléon. Mais le problème, c'est que ça ne va pas compenser pour autant le ralentissement, voire l'arrêt du commerce de la France avec les pays neutres.
Ah oui, tout à fait. Oui, là, pour le coup, ce qui fait que pour l'État français, les droits de douane s'effondrent. Et l'une des ressources principales, déjà à l'époque, empêche... de poursuivre, d'accroître le financement de la guerre, puisque c'est par ailleurs on est engagé en Espagne pour la guerre, on est engagé sur les mers contre l'Angleterre, il y a eu une guerre en 1809 encore contre l'Autriche, il y en aura une bientôt avec la Russie, donc en fait on a besoin comme ça de surface financière et de financement de la guerre, et donc là on n'a plus les recettes de douanières qui constituaient environ 20-25% des recettes de l'État.
On va voir les conséquences économiques de ce blocus et aussi les mesures qui vont être prises pour tenter de l'alléger. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Who pulls the strings, who makes the deal? Stands 5'3" in Cuban heels.
all the girls, then wakes up again. Who will rule the world? Who will make them scream his name?
Napoléon Complex de The Divine Comedy. Pierre Branda est toujours avec nous pour parler du blocus institué par Napoléon en 1806 sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Alors, quelles furent les conséquences du blocus sur les ports de la côte ouest, qui était, je le rappelle, le poumon économique de la France du XVIIIe siècle, père Pierre Branda?
Alors, effectivement, une grande partie du commerce extérieur français avant la Révolution passait par là, et ça enrichit les ports de la façade atlantique, mais aussi méditerranéenne dans une moindre mesure. Là, avec le blocus continental et donc surtout l'arrêt du commerce avec les neutres, l'activité va s'effondrer. Les ports vont connaître une déshérence absolue, que ce soit Bordeaux, Nantes, La Rochelle, et entraîner comme ça évidemment du chômage, une crise dans ces ports, et ça sera aussi la même chose en grande partie à Marseille, car aussi le commerce avec la Méditerranée s'arrête aussi en grande partie. Du coup, là, nous avons un véritable effondrement de l'activité, une montée de l'impopularité du régime assez sensible, contenue pour le moment, mais lorsque l'Empire va craquer, ces villes feront partie des premières villes à rapidement tourner le dos au régime.
Le mécontentement gronde à la fois en France et chez ses alliés parce que les prix des biens augmentent aussi.
Oui, tout à fait. Nous avons, étant donné à cause de la contrebande, nous avons une inflation sur ces denrées coloniales, et puis Napoléon lui-même qui va finir par admettre l'entrée de ces marchandises, de ces denrées coloniales, va éditer un tarif qui s'appelle le tarif de Trianon en 1810, qui va fixer des prix très très hauts, des droits de douane prohibitifs, mais pour à la fois récupérer de l'argent et un petit peu soulager l'économie, mais du coup, effectivement, les prix vont monter de manière assez forte, ce qui va provoquer l'éclatement déjà d'une bulle financière et annoncer une série de crises sur 3 ans assez sévères.
Et avant cela, ce qu'on constate dans des villes comme Bordeaux, que vous citiez, Pierre Branda, c'est une augmentation très forte du nombre d'indigents en quelques mois seulement.
Oui, oui, à l'époque, effectivement, les travailleurs, d'ailleurs nomades pour l'essentiel, hein, et à ce moment-là, dans ces villes-là, le nombre d'indigents va monter assez rapidement. Et en plus, le problème, c'est que ça va être suivi sur l'intérieur du territoire pour d'autres raisons, mais en partie pour celle-ci aussi, à cause du blocus. Et ce qui fait qu'on a effectivement une montée des indigents et un problème effectivement assez à la fois économique, mais social aussi.
Vous citiez tout à l'heure le domaine du coton, qui est évidemment très important pour la révolution industrielle. En France, c'est un secteur qui va particulièrement souffrir de la chute des importations de matières premières.
Oui, alors il va souffrir parce que avec la chute de l'importation des matières premières, il se trouve que à un certain moment, une spéculation s'était greffée au phénomène. Lorsque l'inflation va être trop importante, beaucoup vont se trouver à découvert et par là faire faillite. Et ce qui va entraîner une contraction du crédit, les banques ne vont plus prêter, à un moment où l'activité se ralentit. Ce qui va, donc dans un schéma tout à fait classique, hein, la crise financière de 1810 va déboucher sur une crise industrielle en 1811. Et dont peut situer l'origine, effectivement, par rapport au blocus et ses conséquences indirectes, hein, enfin, ou ses effets pervers plutôt, et ce qui fait qu'il entraîne en 1811 une crise industrielle assez prononcée qui va...
Et qui va toucher toute l'Europe.
Qui va toucher toute l'Europe, où effectivement le nombre d'indigents et de sans-travail va, sans protection sociale à l'époque, hein, va comme ça monter. La seule chose qu'on peut leur offrir, bon, ce sont des soupes populaires, hein, les soupes à la Rumford avec de la pomme de terre, mais bon, c'est tout de même pas suffisant. Ce qui fait que, et en plus, là, le blocus n'y est pour rien, mais il se trouve que l'été va être particulièrement chaud, caniculaire, que les céréales vont brûler sur pied et les récoltes vont être très mauvaises. Donc, ce qui fait que ce peuple nomade, hein, parce qu'on oublie toujours que la population ouvrière à l'époque est assez nomade, hein, se rend de ville en ville et provient des campagnes, bien sûr, mais à la fois ne trouve plus rien dans les villes, mais ne trouve plus rien non plus dans les campagnes. Et se trouve comme ça, isolé et sans ressources, ce qui va beaucoup inquiéter le pouvoir. Hein.
Et dans les territoires annexés, il y a aussi une exigence très forte de contributions financières pour financer les armées napoléoniennes, ce qui va peut-être accélérer aussi cette crise économique des années 1810-1811.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Napoléon... Si vous voulez, la pression fiscale sous Napoléon reste modérée malgré 15 ans de guerre, malgré des niveaux de guerre ou de financement de la guerre tout à fait comparables à ceux de la Première ou Seconde Guerre mondiale pour l'époque. Donc, mais pour alléger cette pression fiscale, Napoléon pense se financer, si je puis dire, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de lever des impôts en France, il enlève ailleurs, c'est peut-être une solution d'ailleurs, de manière économique. Donc ce qui fait qu'il fait deux choses, effectivement il demande de l'argent à ceux qu'il a vaincus ou ceux qui sont ses alliés, et en plus, comme il dit, il exporte ses soldats. Parce que Napoléon n'exportait pas des automobiles, mais des soldats. C'est-à-dire, il a dit à l'ambassadeur russe, bah, écoutez, moi, j'exporte mes soldats, parce que quand mes soldats sont en territoire ami ou anciennement ennemi, eh bien, c'est le pays d'accueil qui paye tout, sa solde, la nourriture, etc. Ce qui fait que, pour Napoléon, il a, si vous voulez, une armée de manière gratuite, quasiment. Mais pour les autres, c'est payant. Et donc, évidemment, que pour leur circuit économique, par ailleurs, malmené pour un certain nombre de raisons, à la fois les récoltes, le blocus, tout de même la guerre à des moments, et bien évidemment, ça se rajoute.
Et alors, on parlait du coton, on peut citer par exemple, en exemple, l'entreprise Oberkampf, qui a eu de plus en plus de mal à se fournir en coton sud-américain notamment, et du coup en 1807, en quelques mois, 40% des fileurs et tisserands travaillant dans l'industrie parisienne du coton ont été mis au chômage, et pour pallier ce manque de coton, on cherche alors d'autres matières premières, et c'est le moment où on essaye de remplacer le coton par la laine.
Oui. Effectivement, là, qui est plus facile à obtenir. On essaie d'ailleurs d'autres approvisionnements au Levant. On se réserve les achats en Turquie. Là aussi, effectivement, et plus l'apparition de la laine. Enfin, on essaye tout ce qui est possible. Mais si vous voulez,
le problème, c'est que le coton est soit trop cher, soit de mauvaise qualité.
Voilà, et trop cher ou de mauvaise qualité. Et par rapport au coton en contrebande et au filet de coton, etc., etc., enfin, tout ce qui tourne autour, eh bien, ça reste moins bien et pas assez compétitif. Et donc, je veux dire, là, à ce moment-là, si je puis dire, il n'y a pas de patriotisme qui compte et on va au mieux offrant et à la meilleure qualité, ce qui fait que la contrebande prospère et prospère encore.
Et alors, comment cherche-t-on à développer justement cette industrie de la laine s'il y a une vraie volonté politique de développer ce secteur?
Ah ben, il y a effectivement une société d'encouragement à l'industrie, des aides. Napoléon cherche à donner l'exemple. Lui-même est un acteur économique important, puisque outre ce qu'il privilégie, outre la laine, il privilégie aussi surtout la soierie, hein, notamment à Lyon. Et voilà, par contre, par opposition, une ville qui va lui rester fidèle parce que la soierie, l'industrie de la soierie, elle ne souffrira pas beaucoup pendant cette période, au contraire. Parce que Napoléon l'encourage et fait en sorte que, eh bien, son monopole s'étende en Europe. D'ailleurs, il va lui-même, pour ses palais, lancer des commandes absolument ahurissantes, notamment pour Versailles. Et ce qui fait que, eh bien, le garde-meuble national, le mobilier national, aura, grâce à Napoléon, de quoi tapisser et meubler les palais nationaux, les ministères, les ambassades, jusqu'aux années 1960. Ah oui. Tellement il en a commandé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouvait du style empire un peu partout, puisqu'il en a commandé des kilomètres de soieries. Et il a donné comme ça, je rappelle, au Canut Lyonnais, etc., qui avait été assez en avant dans les révoltes ouvrières, etc., satisfaction, et ce qui d'ailleurs, d'une manière politique, ils lui rendront bien, puisque quand il reviendra, au moment des 100 jours, eh bien Lyon lui réservera un accueil absolument triomphal, ce qui n'aurait pas été le cas à Bordeaux.
Et en même temps, le développement de la laine va se heurter à un obstacle, c'est que c'est une période où la consommation de viande augmente dans les villes, et le problème c'est que les pâturages ne sont pas extensibles à l'infini. Donc à un moment donné, on ne peut pas développer davantage la laine.
Oui, voilà, parce que là on se trouve encore comme un peu avec la betterave, avec effectivement d'autres contraintes, c'est-à-dire que tu vas sur le papier de dire je veux de la laine, effectivement il faut des pâturages, il faut des animaux, il faut ça, et ça va entrer en concurrence ou se substituer à quelque chose d'autre qui lui existe, résiste, et ou alors qu'on affaiblit. Ce qu'on pense gagner d'un côté, on le perd de l'autre. C'est souvent d'ailleurs le cas en économie. Hein.
Et toujours sur ces produits de substitution, pour pallier le manque de matières premières, on va essayer aussi de remplacer l'indigo en développant un certain nombre de colorants.
Oui, alors avec plus ou moins de succès, on est arrivé avec des fixateurs. Alors il se trouve que grâce à l'Institut, grâce à Napoléon, a beaucoup encouragé le monde scientifique, il en a fait partie d'ailleurs, ce qui fait qu'avec cet encouragement, on arrive là aussi à tester les procédés, à arriver un peu plus loin. Je peux en mémoire tous les procédés techniques, mais on arrive comme ça à des résultats, mais le problème toujours avec Napoléon, nous sommes dans un temps court, donc en fait, est-ce que nous pouvions tenir assez longtemps pour développer tout ça, peut-être, mais toujours est-il que là, le temps a manqué. Et de l'autre côté, ça restait assez fort. D'autant que l'Angleterre, par le blocus, on y reviendra peut-être, mais est atteinte, mais pas comme on le pensait, et que même certaines années, paradoxalement, enfin tristement pour Napoléon, elles vont plus pendant la période du blocus qu'avant.
Mais alors justement, à quel moment Napoléon commence à se rendre compte que le blocus n'apporte pas les effets escomptés ?
Alors il s'en rend compte effectivement avec la crise, et là, il est confronté à cette crise économique. Alors au départ, on oppose de la fermeté, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais ensuite, force est de constater qu'on ne peut pas tenir longtemps comme ça. Du coup, il faut soulager, apporter un peu d'huile dans les rouages économiques. Alors déjà, on a commencé à réadmettre, mais contre des tarifs prohibitifs, les produits coloniaux, et ensuite
donc Napoléon, les relations commerciales avec les États-Unis ont été rétablies,
et avec un système de licences et de permis où en fait on autorise certaines quantités à l'achat comme à la vente, c'est-à-dire on oblige un échange. Au passage, les licences et ces permis sont vendus très cher, ce qui donne des ressources à l'État napoléonien. De ce côté, et de l'autre côté, on pense qu'effectivement, ranimer sous condition et être sûr, si je puis dire, que si le commerce se ranime et continue, en fait, on n'est pas dupe, hein. On sait très bien que ce commerce américain est en grande partie anglais, en fait. Même si on n'est pas dupe, eh bien, au moins, si je puis dire, on en profitera un peu grâce à la vente des permis et des licences. Mais en fait, quelque part, Napoléon se fait son propre contrebandier, en fait. C'est-à-dire qu'il introduit un voie de contrebande lui-même, mais au moins, il en profite, ce qui est préférable à la situation d'avant, hein.
Et c'est un système qui avantageait plutôt la France, ce système des licences, par rapport à ses alliés. Donc c'est aussi ce qui explique la montée du mécontentement.
Oui, parce que alors si effectivement Napoléon pense que s'il a toujours ce principe qu'il a énoncé, la France avant tout. Si les ports doivent se ranimer, c'est avant tout les ports français, les ports des autres alliés ou de ceux qui sont effectivement plutôt parfois des satellites. Eh bien, cela passe en deuxième. Voire troisième, voire quatrième rang, ils n'ont pas grand-chose. Pense à Livourne, par exemple, comme port italien, ce qui entraîne beaucoup effectivement d'incompréhension et de mécontentement, bien sûr.
Et ce système de licence permet d'importer des denrées alimentaires et des matières premières, mais les marchandises manufacturées, elles restent interdites.
Oui, parce qu'elles, elles continuent à passer avec la contrebande de toute manière, elles restent interdites. Alors, ce qui est un peu ce qui illustre le besoin de l'Europe dans ces denrées coloniales, c'est qu'on s'est rendu compte que quand un navire, puisque c'était le principe, partait avec des soieries, enfin des produits français, eh bien, comme il savait très bien qu'il n'en vendrait pas la moitié, il les jetait en mer. Et tout ça pour avoir simplement le permis de pouvoir acheter des denrées coloniales, tellement les prix étaient montés, mais malgré tellement on les réclamait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, en fait.
Il y a aussi, plus redoutable que les brigands, les contrebandiers. La contrebande est un des facteurs d'insécurité les plus grands pendant cette période. La contrebande va prendre un essor énorme. La mer du Nord, la Baltique, la Méditerranée, toutes les mers européennes sont sillonnées de navires anglais qui débarquent les marchandises, qui les débarquent à Heligoland, qui les débarquent à Hambourg, qui les débarquent à Trieste. Et, sitôt débarquées, ces marchandises sont prises en compte par des bandes de véritables armées de contrebandiers qui vont les faire circuler à travers l'Europe, vers les capitales, vers ceux qui les achèteront ensuite.
Le grand historien spécialiste de Napoléon, Jean Tullard. Alors la contrebande va s'organiser surtout dans les ports annexés qui sont loin de la capitale et donc finalement difficiles à contrôler pour le pouvoir impérial.
Oui, tout à fait. Notamment d'ailleurs la complicité de ministre de Napoléon, son ancienne secrétaire Bourrienne, se faisait acheter. Alors il faut dire que Napoléon a militarisé la douane. Sous son règne, les effectifs de la douane ont triplé pour atteindre 35 000 agents. Mais même répartis sur toutes les côtes d'Europe, ça ne fait pas beaucoup. Même s'ils sont pas trop mal payés, eh bien la contrebande peut les payer pour que sur la nuit venue sur la plage, ils s'endorment opportunément. Et ensuite, alors la contrebande va développer des trésors d'ingéniosité un peu partout.
On va par exemple déplacer les routes commerciales.
Oui, on va déplacer les routes commerciales, elles vont devenir évidemment plus discrètes et on va employer des moyens pour tromper encore dans le domaine de la c'est la vieille lutte entre la douane et la contrebande encore aujourd'hui, entre les caches secrètes, etc. Là, je pense que l'anecdote la plus parlante, c'est en 1813, le maréchal Bessières meurt sur les champs de bataille, donc on rapatrie son corps, sa dépouille en France pour qu'il soit aux Invalides. Le cortège funéraire arrive à la douane sur le pont de Kehl à Strasbourg. Bon, la douane salue, laisse passer, puisque ça veut dire qu'on voit mortuaire, donc évidemment personne ne s'y oppose. Mais quelle n'est pas la surprise des douaniers quand, quelques heures plus tard, un second convoi mortuaire se présente. Le premier était un faux.
Et le premier contenait
du tabac, du sucre, etc. Donc voilà jusqu'où on a été. Donc entre les moyens qu'ils avaient, et Jean Tullard a raison de rappeler, c'était des bandes organisées, et même d'ailleurs effectivement des véritables entreprises avec des moyens conséquents, puisque l'avantage concurrentiel anglais était tel que ça laissait des marges assez importantes pour développer ça, payer des intermédiaires, rémunérer des officiels. Je veux dire, c'était une lutte inégale, parce que même si Napoléon voulait employer tous les moyens et mettre un douanier derrière chaque Français, aurait-il fallu qu'il ne soit pas corrompu, aurait-il fallu qu'un certain nombre de choses qui fait que cette guerre était plus ou moins perdue d'avant, même si elle a donné des résultats, mais comme aujourd'hui dans certains trafics, on court derrière ce trafic plus qu'on ne le précède.
C'est la municipalité de Hambourg, je crois, qui était interpellée par le nombre de funérailles qui se multipliaient.
Exactement,
dans la ville.
Exactement, oui, on a fait
fausses funérailles.
Les cercueils étaient sucrés à l'époque avec... tellement, oui, ils étaient remplis. On a aussi des pavés sous les routes aussi, construits, effectivement, fait de fausses routes pour dissimuler de la marchandise dessous. Enfin bon, on a vraiment tout imaginé. Même, je pense que les contrebandiers d'aujourd'hui, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, n'ont pas eu la même ingéniosité que l'époque.
Et à l'époque, on parle de filtration et les produits interdits sont stockés dans des entrepôts, par exemple à Göteborg, en Suède, à Gibraltar ou à Malte. Comment est-ce que ces produits sont ensuite introduits dans l'Empire, Pierre Brandard?
Alors donc, ils sont introduits alors, parfois de manière, si je puis dire, officielle, c'est-à-dire que la loi voulait que les douanes visitent ou que le ministre fasse visiter les bateaux qui arrivaient et délivre un certificat. Comme quoi, ce certificat c'est, disant que la marchandise n'était pas anglaise. Évidemment, comme ils étaient corrompus, ils avaient le tampon facile. Donc ensuite, si ce n'est pas ça, c'était les débarquements clandestins de nuit. Ça pouvait être encore d'autres circuits plus territoriaux, par d'autres pays, la Russie notamment, qui pouvaient être plus perméables. Enfin, je veux dire, de toute manière, dès qu'on essayait, on fermait, si je puis dire, un robinet, trois autres s'ouvraient en même temps.
L'Empire ne va pas réussir à endiguer la fraude, en effet. Et pourtant, la législation à l'égard des contrebandiers est extrêmement sévère.
Ah oui.
va jusqu'à la peine de mort.
Oui, oui, tout à fait, c'est la peine de mort pour ceux qui sont convaincus de contrebande des produits anglais. On en saisit tout de même, que là aussi on entrepose. Et alors, les combles, il y a là-dessus des gravures, et puis qui comme ça ont frappé les contemporains, c'est que on brûle le tabac, on brûle les marchandises sous le nez de personnes qui en manquaient cruellement. Donc c'est effectivement cette sorte de supplice, pas voulu bien entendu, mais qui rend le blocus encore plus impopulaire.
Et c'est la chute de l'Empire en 1814 qui va mettre fin à ce blocus, la disparition des interdictions. À ce moment-là, ça va représenter une bouffée d'air pour l'économie européenne.
Oui, bien sûr. La circulation va se rétablir, mais bon, on n'en est pas à une période tout à fait de libre-échange. La France va conserver, si je puis dire, un esprit blocus, en pensant que développer son économie à l'abri de la concurrence, qui évidemment, comme vous savez, se discute. Et du coup, effectivement, si tout ça se rétablit, évidemment, les ports vont aller mieux, mais quelque chose est passé, des routes se sont éteintes, les ports de l'Atlantique ne retrouveront jamais la prospérité d'antan, pas seulement à cause du blocus, et d'autres circuits sont à développer. Et puis surtout, depuis 15 ans, l'économie européenne, d'ailleurs, et surtout anglaise et française, était devenue des économies de guerre, donc passer à des économies de paix, ça n'a pas été simple, parce que évidemment, les besoins ne sont plus les mêmes. Donc du coup, on n'a pas tout de suite comme ça une reconversion réussie, elle prendra du temps, mais évidemment, elle finira par s'imposer et reprendre son cours, si je puis dire.
On arrive presque au terme de cette émission, Pierre Branda. Finalement, on peut dire que Napoléon a fait un mauvais calcul économique, le blocus ne pouvait de toute façon pas atteindre ses objectifs.
Alors oui, oui et non, parce que l'idée était excellente et que, si je puis dire, peut-être qu'à une époque moins imprégné, si je veux dire, des évolutions modernes, etc., enfin de l'économie moderne que nous connaissons en train de naître, peut-être le pari aurait marché. Et là, pour beaucoup de raisons économiques liées à nos circuits d'aujourd'hui, ça a échoué. Mais bon, ça, ils ne pouvaient pas le prévoir à l'avance. Et surtout, un cercle vicieux desquels il est toujours difficile de sortir s'est enclenché. Effectivement, l'exemple du blocus continental, vous avez bien raison d'y insister, est à méditer pour nos économistes et gouvernants d'aujourd'hui, je pense.
Alors justement, quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer, des leçons économiques? Ce qu'on a vu tout de même, c'est que le blocus avait favorisé l'essor de l'industrie française, avait permis de la consolider pour longtemps.
Ah bah oui, c'est-à-dire en économie, tout est matière d'équilibre. Si le principe est poussé trop loin jusqu'à l'extinction des échanges, évidemment tout le monde s'étouffe. Et maintenant, si il est raisonnablement appliqué, ça peut marcher. Encore que, bon, je veux dire, le blocus a montré que par les effets pervers du blocus l'ont emporté sur le principe. Ça fait penser exactement aujourd'hui, vous parliez en introduction des sanctions américaines, mais je veux dire, qui sont les premières victimes des sanctions américaines, notamment dans l'industrie automobile, par rapport aux taxes sur l'acier, les constructeurs américains qui voient leur acier augmenter, donc leur prix des voitures avec, donc ça pénalise le consommateur américain. Donc, je veux dire,
il y a déjà une mondialisation à l'époque qui fait que toutes les économies sont interdépendantes.
De toute façon, elles ont toujours été. Donc, je veux dire, en fait, la vision selon laquelle nous sommes dans un monde nouveau, enfin, à mon sens, et comme historien, est assez fausse, dans la mesure où, je veux dire, à cette époque-là, bien entendu, tout était déjà très lié et qu'il fallait comme ça faire de mesures. À la décharge de Napoléon, nous sommes tout de même en guerre, il faut pas oublier ça. Et quand on pense au blocus suivant, ceux de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui ont été appliqués avec beaucoup plus de rigueur côté anglais, américain, etc., je veux dire, ça a produit des effets qui ont affaibli le belligérant. Donc, je veux dire, c'est une arme économique. Napoléon avait raison, mais voilà, avec des effets pervers qui sont à souligner, oui.
Retour au 21e siècle avec les nouvelles de l'écho, présentées toute cette semaine par Amélie Perrault. Bonjour Amélie.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vendredi s'achevait la consultation du grand débat national et vous vous interrogez sur les questions économiques qui en ont émergé.
Fiscalité, dépenses publiques, retraite, pouvoir d'achat, l'économie était partout dans les discussions du grand débat. Fiscalité et pouvoir d'achat étant même les premières préoccupations des personnes ayant donné leur avis sur Internet. Ces avis en ligne, Le Parisien en a analysé les grandes orientations. On lit, sans être très surpris, qu'à la question « Pour quel domaine d'action publique seriez-vous prêt à payer plus d'impôts ?», la réponse arrivée en tête est « Aucun ». Et les domaines les moins choisis sont la solidarité et la culture. Quant aux impôts qu'il faudrait baisser, c'est la TVA qui est la plus simplicité avec la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, proposition aujourd'hui incompatible avec les règles européennes.
Au-delà de la consultation en ligne, des propositions se sont-elles démarquées, Amélie, lors des discussions qui se sont tenues ?
Oui, et on peut citer l'indexation des retraites sur l'inflation, le rétablissement de l'ISF, lui déjà écarté par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, et la mise en place d'un impôt sur le revenu qui serait payé par tous, même de manière symbolique, proposition rejetée par Matignon. Tout l'enjeu reste donc de savoir ce que l'exécutif retiendra des débats. La semaine dernière, le ministre de l'économie Bruno Le Maire affirmait que dans les débats, on trompait les Français, car le redressement, disait-il, ne passe pas par plus de redistribution fiscale. Difficulté supplémentaire pour traduire les opinions en actes. Si ce recueil d'avis à grande échelle s'apparente à un sondage, il n'est pas représentatif, nous dit Jérôme Fourquet de l'IFOP. La France qui s'est exprimée est urbaine et favorisée. Les Ardennes, le Nord ou encore le Pas-de-Calais ont participé 4 fois moins que Paris ou les Yvelines au grand débat.
Alors en matière d'économie, comment est-il possible de passer de la vie à l'action ?
Il y a quelques semaines, l'anthropologue Bruno Latour disait à la revue en ligne Reporter que plutôt que de demander aux gens leur avis, il faudrait leur demander de décrire leur situation. Et il est intéressant de relever le caractère proprement économique de cette idée. Car en décrivant des situations concrètes, on fait apparaître nos liens économiques existants, où précisément ils posent problème et avec qui s'allier pour les défendre, notamment localement. Car le système n'est pas en haut, ce n'est pas l'État, le système est en bas, c'est l'ensemble des conditions dont les gens ont besoin pour subsister.
L'idée, c'est donc qu'en se décrivant, chacun redécouvre à qui et à quoi il est lié pour mieux défendre ses intérêts.
Bruno Latour nous invite à tous nous poser 3 questions. Premièrement, quels sont les êtres et les choses qui vous permettent de subsister, sans parler seulement d'argent ? Deuxièmement, de quoi dépendons-nous ? Qui dépend de nous ? Et enfin, seulement dans un 3e temps, sans quoi le risque est de rester trop général, que sommes-nous prêts à défendre ? Qui sommes-nous prêts à attaquer et avec qui se défendre ? Si l'on prend l'exemple du Brexit, le problème est bien que les Anglais aient d'abord donné une opinion générale sur leur identité, avant de réaliser leur dépendance à des liens dont beaucoup sont d'ailleurs européens.
Y a-t-il pour finir, Amélie, des exemples à avancer ou à consulter de tels des avantages à consulter de telles descriptions ?
Parler de décrire précisément sa situation, c'est l'occasion d'évoquer le livre « Les racines de la colère » du photographe Vincent Jarousseau. Pendant 2 ans, il a suivi des habitants de Denain, ville du Nord de 20 000 habitants et l'une des plus pauvres de France. Sous la forme d'un roman photo, il y dépeint des portraits d'habitants que l'on suit au travail, dans les transports, en famille ou lors de leurs rendez-vous administratifs. Et l'on comprend particulièrement bien les enjeux liés à Denain, à la mobilité, souvent contrainte et indispensable quand il s'agit d'un emploi. Décrire ses situations et sa situation, c'est alors une façon de voir l'économie non pas comme une accumulation d'opinions, mais comme des liens existants qu'il s'agit de raconter pour mieux se défendre et les améliorer.
I wouldn't worry, your melodramas are embarrassing. My cripple Henry, imagine menace under everything. I wouldn't worry, I'm not about to fall in love again. It's not a moment,
On se quitte avec le groupe San Fermin, Cruel Kind of Punishment. Merci beaucoup Pierre Vanda de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle votre ouvrage Le Prix de la Gloire, Napoléon et l'Argent, paru chez Fayard. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la géopolitique des sanctions économiques. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.